C'est un organisme communautaire pour la sécurité alimentaire et l'insertion sociale. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour vous. Nous, notre but, c'est de rendre l'alimentation saine la plus accessible possible. Et si on peut vous rendre service, c'est encore mieux. Découvrez nos services de mets congelés, de traiteurs, de livraison popote roulante et même de formation. Nous serons toujours contents de vous voir pour une ou plusieurs visites. Contactez-nous à labaratte.ca. À tantôt!
Avec la loterie Grande Vie, j'ai gagné 1 000 par jour à vie.
Puis moi, j'ai gagné un lot boni de 25 000 $ par année à vie.
Fait qu'hier, je me suis payé la traite dans un resto 3 étoiles.
Ben moi, j'ai dormi à la Belle Étoile.
Là, je me magasine un chalet dans les Bois-Francs.
Puis moi, je me pose un nouveau plancher de Bois-Francs.
Et demain, je pars pour les plus beaux centres de ski.
Bon, moi, faut que j'y aille. Je m'en vais promener mon nouveau Husky. Grande Vie. 3 lots bonis de 25 000 $ par année à vie à gagner à chaque tirage les 16 et 20 juin. Manquez pas ça. 18 ans et plus.
Yeah. Si la vie se charge de nous faire comprendre des choses, osons-nous avouer qu'on n'a rien compris à la vie. Car voilà qu'on la réduit en une chose, qu'on overdose et le surplus explose. La dompe se comble avec toutes ces choses, on se sent moins que rien sans toutes ces choses. Ce qu'on achète puis à jeter boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qu'on achète puis à jeter boomerangera dans l'ouragan Hannah. Si la vie est courte et qu'en profiter est sage chose, arrêterons-nous de gaspiller, le demi-tour est permis. On est tombé dans le panneau du plastique, dans la flèche d'or, tous dans le trafic. Humains effarés sur la route du fric, être rendu là, c'est plus chic. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah. Et qu'on fait sont en harmonie, v'là le bonheur dans la vie. Plutôt on compense, on dépense, ensuite on ressent l'effet. Mais on pourrait faire mieux que ça, cheminer, cracher nous le résultat. La doctrine du dioxyde nous étouffera, toutes ces choses inutiles, c'est ce qui restera. Le dernier cri du jour, des sacs vides d'amour, des sandales éphémères, des bijoux de ma mère, des carcasses d'équipements qui prenaient tout mon temps, des bébelles de bébé, des poubelles d'Angers, des lits, des draps, des cochonneries, des gugus à un U hors plastique hystérie. Le continent.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais.
Bonjour
que dès
et bienvenue à l'émission.
Elles s'en vont danser sur le gazon.
C'est Carl FM et c'est pour live. Et je m'appelle Larry Hodgson et on va parler comme chaque semaine du jardinage. Et nous sommes dans ma région et dans beaucoup de régions, je pense aussi, un peu dans l'attente. On peut-tu planter, on ne peut pas planter parce que ça, c'est presque pas tout à fait assez chaud. Oh, c'est un peu plat, mais c'est pas normal. Vous savez, quand je fais mes calculs de semis, je calcule le 11 juin. Et voilà, on va être rendu au 11 juin avant que ce soit le temps vraiment de planter encore une fois. C'est pas très loin de ça. Bon, donc qu'est-ce qu'on... On voit ce qu'on voit ici. Le temps de jour, c'est pas si chaud que ça, mais c'est raisonnable. Mais il reste que c'est la nuit. Les nuits sont pas chaudes. Et c'est ça qui est un peu dérangeant. Fait que moi, je vais voir sur le site que j'ai, que les températures nocturnes de 12, 11 degrés, là, 9 degrés, pas assez, ça. 12 peut-être, 12 limites, c'est limite 12. Et on va dire ça, c'est bon. Essayez donc d'aller dehors quand il fait 11 degrés. C'est pas chaud, ça.
Mais Larry, ce qu'on voit à l'écran, c'est tous des températures de 12, 11, 13, 12. C'est la température dont tu parles à chaque semaine qui est à tout le moins minimale pour planter.
Oui, mais c'est la température de la nuit qui m'intéresse. Le jour, c'est pas si pire.
Mais c'est ça, c'est du autour du 12, 13 la nuit.
Oui, normalement 12 et plus. Et ça veut dire qu'il faut que ça reste à 12 et plus. Si ça descend à moins que 12, c'est pas bon.
Ben.
Donc, on est vraiment mal à la limite. Et évidemment, dans chaque région, c'est un peu différent. Ça se peut très bien. Moi, d'ailleurs, je serais surpris. Du contraire, ce serait parfaitement correct de planter actuellement dans la région de Montréal, dans le sud-ouest, où les températures sont plus chaudes, et qu'on soit encore plus loin, dans le nord ou dans l'est. Mais à Québec, c'est ça. On va voir le 9 degrés qu'on peut voir ce soir. À 9 degrés, là, c'est trop froid. Puis encore cette semaine aussi. Fait que, non, il faut penser que c'est limite un peu, mais bientôt, mais pas un jour, on pourrait peut-être y aller. Allez-y, suivez la météo près de chez vous. Là. Qu'est-ce que vous avez pour votre ville ou municipalité? Ça vous donne une meilleure idée. Et pensez que 12 degrés et plus le jour, la nuit, presque tous les jours. Je ne dis pas si ça descend en bas une fois de temps en autre, mais jusqu'à maintenant, c'est systématiquement moins 12 très souvent la nuit. Donc, c'est trop tôt. Bientôt. Pour mettre les plantes. Là, je parle des plantes frileuses, tomates, haricots, des choses comme ça. On peut toujours semer d'autres légumes. Les légumes, quand ça, on peut les semer. C'est les plantes frileuses qu'on retarde, qu'on garde sur nos tablettes ou sur nos larves qui cuisent nos conseils. Et voilà.
C'est si on regarde Larry, Montréal, oui. Bon, évidemment, on ne fera pas toutes les villes du Québec, mais pour Montréal, la nuit, on est dans tes cibles.
Oui, Montréal, c'est
13, très... 14, 15, on est dans tes cibles.
Oui, c'est parfait pour Montréal. On pourrait planter sans problème. Ce serait bien de regarder voir la semaine prochaine, voir si c'est pas déjà annoncé ou quelque chose comme ça. Mais normalement, ça devrait être correct. Il reste quand même que c'est pas super chaud pour cette saison-ci. C'est dans le frais pour le mois de juin, mais on a eu plusieurs mois de juin récemment qui étaient pas très chauds. D'ailleurs, on parle ça souvent quand le mois de juin est froid et pluvieux. Le reste de l'été n'est pas si chaud et pas si pluvieux. Donc, peut-être qu'on n'aurait pas la sécheresse qu'on a eu l'an dernier. En tant que jardinier, j'aime mieux avoir un peu trop de pluie, pas beaucoup trop, mais un peu trop de pluie que la sécheresse, c'est vraiment pas drôle. Ça affecte tout, c'est pas juste nos petits plants, c'est les arbres, c'est tout. Mais s'il y a une pluie régulièrement, c'est bien pour l'environnement en général. Donc, on est en ligne pour ça, c'est difficile. Voilà. Donc, on va aller voir si c'est des questions qui sont entrées.
Effectivement, il y en a quelques-unes. Il y a Laurence Boucher. J'aimerais savoir à partir de quand je peux retirer mes couvertures flottantes sur l'ail que j'ai mis contre la teigne du poireau.
Et bien, juste pour que les autres comprennent, la teigne du poireau est un insecte. Parce que teigne, pour moi, c'est une maladie. Mais cet insecte-là s'appelle le teigne. Teigne du poireau est un petit papillon de nuit, hein, qu'on voit presque jamais, un petit papillon brun, mais c'est les larves qui causent des dommages. Et quand on pose ça en début de saison, là, ça ne peut pas les atteindre. Donc, si le papillon ne peut pas atterrir sur le feuillage, ou cette couverture flottante qui fait une barrière, la lumière rentre, l'air rentre, l'eau rentre, mais pas l'insecte. Donc, c'est excellent. Par contre, cet insecte-là demeure l'adulte, au moins, qui pond des œufs, la première génération reste actif jusqu'à la fin de juin. Donc, il faut laisser ça jusqu'à la fin de juin. Et c'est pas nuisible non plus, quand même, pour l'ail, de laisser plus longtemps. L'ail, on n'a pas besoin d'avoir une floraison pour pollinisation. Donc, c'est moins grave. Mais oui, laisser ça encore en place, encore 2 semaines, 3 semaines, que le mois de juin soit terminé avant de l'enlever.
Laurence Boucher, toujours, elle a une autre question. Elle dit allez-vous faire un livre sur les plantes comestibles? J'aimerais tellement.
J'ai fait un livre sur le potager, qui est en bonne partie les plantes comestibles. Mais non, je n'ai pas vraiment traité un livre de traiter individuellement des plantes comestibles. Et l'autre chose qui m'empêcherait de faire un livre plantes comestibles, c'est que j'ai essayé de rester dans les plantes faciles, hein, la facilité. Et quand j'embarque dans les plantes, les légumes, ça va. Mais les fruitiers, c'est compliqué et ce n'est pas, à mon avis, facile. Donc, ce n'est pas moi qui va beaucoup promouvoir la culture de beaucoup de fruitiers. Je sais que ça peut être intéressant, mais c'est peut-être pour les jardiniers un peu moins paresseux que moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à faire, pour être patient. C'est, je ne dis pas que ce n'est pas peut-être agréable, mais il faut dire que ce n'est pas, c'est pas ce qui est le plus facile. Hein? Vraiment pas.
Carole Denis veut savoir si c'est correct de planter les dahlias, brugmacia, zinias et tournesol, tous partis à l'intérieur.
Moi, je mettrai que les tournesols à l'extérieur et faites très attention au tournesol. Hein. C'est pas une plante quand même dérange ses racines. Si elle est moindrement endommagée, elle ne donnerait pas une belle plante. Normalement, les tournesols, d'ailleurs, c'est pas trop. Ce n'est pas du tout trop tard pour semer des tournesols. Le tournesol devait être dans le sème directement dehors à cause de ça. Pas une plante qui aime bouger. Les autres, ça dépend où vous êtes. Hein. Moi, je dirais peut-être à Montréal. Ailleurs, ça aurait peut-être mieux, surtout le brugmacia, de garder ça un peu à l'intérieur, au moins la nuit, ou une journée comme aujourd'hui, oui. Ça aurait peut-être pas très chaud, mais peu importe. C'est encore frais pour les plantes qui aiment la chaleur. Et le brugmacia, beaucoup, beaucoup la chaleur. Dahlia zinia un peu moins, mais les tournesols est pas mal indifférent aux nuits fraîches. Ça, vous pouvez, ça peut être dehors. Plus de bonheur que ça. Il n'y a pas de problème.
Jasmine Plante veut savoir si on doit faire hiberner le cactus orchidé ou c'est pas nécessaire.
Le cactus orchidé ou apiphyllum, c'est l'autre nom, ou apicactus, on appelle ça aussi. C'est un très grand cactus avec des longues tiges rotovantes ou arquées, ça va dans tous les sens. Et il produit d'énormes fleurs, spectaculaires, dans toutes sortes de couleurs. C'est vraiment quelque chose. Il faut quand même l'hiberner dans la maison, absolument. Pas nécessairement au grand foie. C'est pas un cactus désertique. Hein? C'est un cactus qui pousse dans la nature en épiphyte, sur les branches d'autres plantes. Donc, c'est un cactus qui n'a pas besoin d'être sec en fait arrosage. Par contre, pas trop d'arrosé non plus. Mais ça rapproche plus d'une plante verte de maison. Quoi. Quand même l'hiver, ce n'est pas mauvais de mettre cette plante-là dans un endroit. Mettre cette plante-là dans un endroit où c'est plutôt frais, ça ralentit la perte d'humidité et de faire juste un peu attention à l'arrosage. Puis baisser la température, ce n'est pas un problème. Mais pas le mettre en dormance, comme on peut faire avec d'autres plantes qu'on va laisser carrément sécher. Il faut quand même regarder en croissance vivante. Voilà.
Martine Joyal. Comment se débarrasser des fougères aigle qui a envahi une plate-bande?
Bon, il y a deux possibilités. L'une, c'est d'arracher. Et le problème, c'est que cette plante-là fait énormément de rejets. Fait que ça repousse. Et d'ailleurs, c'est pas le genre de plante qu'on laisse se développer dans une plate-bande. C'est une sorte de plante, dès que vous le voyez, on essaie de l'éliminer tout de suite. Mais en tout cas, comme c'est trop tard, donc, il y a cette possibilité-là. Et l'autre, c'est d'enlever la lumière à la plante. Parce qu'on arrache, il reste toujours des petits bouts, et les petits bouts, ça repousse. Si vous coupez la lumière sans faire en sorte que la plante ne peut pas vivre, il y a deux façons principales pour couper la lumière à la plante. Un, couper son feuillage au sol. Et dès que ça repousse, vous le coupez nouveau. Et dès que ça repousse, vous le coupez nouveau. Et éventuellement, ça va fatiguer et mourir. Ne veut pas. Cette plante-là a besoin de lumière. Si vous coupez son feuillage avant que ça puisse faire beaucoup de photosynthèse, vous allez l'épuiser. Et l'autre, c'est de dire, OK, tout le point est condamné pendant une grosse année. Et vous couvrez tout avec une toile noire. Une quoi, une vieille, un vieux tapis caoutchouté, quelque chose comme ça, qui laisse passer aucune lumière, mais aucune lumière. Et vous l'aurez comme ça. Pendant, et là, normalement, il faut commencer tôt au printemps jusqu'au printemps suivant. Un an au complet. Et si vous l'avez au bout d'un an, et ça fait le moindre signe de vouloir repousser, remettez de suite et attendez un autre 6 mois. C'est long, mais au moins on va le tuer de cette façon-là.
Lise Doyon, j'ai un Brunmansia qui n'a après l'hiver que des feuilles au bout des branches. En le sortant dehors bientôt, repoussera-t-il des feuilles sur les branches ou seulement au bout des branches?
OK, j'essaie de saisir. J'imagine la plante, elle pousse. Elle fait qu'au bout des branches, parce que c'est le début de la saison. Ça se peut, mais ça se peut que non aussi. La plante a tendance à pousser au bout des branches. Donc, vous pouvez peut-être pincer l'extrémité pour forcer la plante à faire des feuilles plus bas, faire un repousse plus bas, si vous voulez. Il faut quand même imaginer des croissants volaires une fois plein de feuilles, parce que des fois, ça peut avoir vide maintenant. Mais avec les grandes, grandes feuilles que ça fait, ça finit par avoir un très bel effet. Donc, à vous de juger.
Il va maintenant avec une prochaine question. OK, on est rendu à Isabelle Goupil. Peut-on trop arroser des émérocailles que je viens de transplanter d'un endroit à un autre? En fait, je me demande s'il peut arriver de faire pourrir les racines. Merci.
Oh oui, bien sûr. C'est moins courant que de laisser sécher et mourir de sécheresse, mais oui, ça peut se faire. Et là, il faut penser qu'il pleut beaucoup ces jours-ci, ce qui fait le besoin d'arrosage est assez minimal. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, quand on repique une plante, et surtout si on a dérangé ses racines, c'est moyen de pire si on avait une plante en pot. Dans ce cas-là, les racines sont restées intactes. Et si on l'a déterré pour replanter ailleurs, les racines ont été dérangées. Donc, on essaie de maintenir un sol un peu humide dans tout le temps. Mais ça ne va pas être dans l'eau tout le temps. Donc, il faut essayer de voir quand le sol commence à s'assécher un peu, laisser le sol sécher un tout petit peu, puis là, c'est le temps d'arroser. Donc, avec le gros pluie qu'on a eu, faites eu trop d'eau. Fait que vous pouvez réduire pour l'instant, mais il ne faut quand même pas que ça sèche. Donc, vous avez un jeu à faire entre les deux. Un début de pourriture, ce n'est pas la fin du monde. Les plantes le récupèrent bien de ça. Mais il ne faut pas exagérer. Là. Il y a peut-être vraiment eu trop d'eau, surtout qu'il y a tellement plu. Je sais que chez moi, c'était quand même une lave-auto. Hein? La force de l'eau qui tombait. J'ai rarement vu ça. Donc, voilà.
Christine Poirier écrit, j'ai deux pommiers de 4 ans, un Bell Mac et un Liberty. L'an passé, j'ai eu une très grosse récolte. Cette année, mon Bell Mac n'a pratiquement pas fleuri, donc peu de pommes se sont développées. Le Liberty en a produit moyennement. C'est normal? Je suis de la région de la Rive-Sud de Montréal.
Vous allez découvrir, à force de jardiner, avec des pommiers, que leur production est à peu près bisannuelle. On a une bonne année et une moins bonne année. Une bonne année et une moins bonne année. Et ça dépend de la plante, de son âge, de son état. Et la moins bonne année donne une récolte comme acceptable ou presque rien. C'est très variable. Donc oui, c'est tout à fait normal. Vos arbres sont jeunes. C'est difficile de dire comment ils vont se comporter dans l'avenir. Mais ça se peut que vous trouvez que votre Bell Mac soit un peu bisannuel, un peu plus bisannuel que votre Liberty. Ça, c'est possible, ça. Ça envoie toutes sortes de possibilités avec des fruitiers comme ça.
Maintenant, Martine Gagnon. L'an dernier, j'ai planté un fusain ailé en zone 4B. À l'automne, il a fleuri, il était magnifique. Ce printemps, il fait seulement des branches du bas. Est-ce normal?
Ça veut dire que probablement, moi je soupçonne que votre fusain ailé a été, comment dire, un peu mêlé. Normalement, elle ne fleurit pas l'année que le plant. Ah, la plante est l'automne, est-ce que c'est vrai? Le fleurit à l'automne, OK. Normalement, ça ne fleurit pas à l'automne, ça fleurit au printemps. au début de l'été. Donc, elle était comme, elle était cause de transition ou de déplacement. Elle était mêlée à celui de tard. Comme la celui de tard, le bois dans le secteur des fleurs n'a pas eu le temps d'aouter. Aouter, c'est un terme qu'on utilise en horticulture. On voit le mot aou là-dedans. C'est que c'est la période où la plante se prépare à l'hiver. Donc, il se peut que les branches n'ont pas eu le temps de se préparer pour l'hiver. Et dans ce cas-là, que ces branches-là soient mortes. Mais il y a des nouvelles branches qui sortent plus bas et que ça va pousser et recouvrir avec le temps les autres. Donc, couper les branches qui sont mortes, laisser les autres pousser et votre plante va récupérer très bien.
Annie Gilbert a dit qu'elle a semé cette semaine des graines de laitue, carottes et j'ai planté mes semis de tomates. Les annonces de la pluie toute la semaine. Est-ce que mes plants vont pourrir et est-ce que mes graines vont germer? Je suis inquiète. Elle est ici dans la ville de Québec.
Oui. C'est l'inquiétude plus pour la carotte. Okay, la carotte, d'un côté, très fragile au début. Ça devient solide plus tard, mais très fragile au début. Et ça se peut que ce soit trop d'eau pour le pauvre titre. Avez-vous accès à une couverture flottante? Parce que là, ce serait pour d'autres raisons complètement. Normalement, la couverture flottante, c'est pour tuer contre les insectes. Mais quand on met ça dans le sol, j'imagine que vous avez un rang. Supposons que vous avez un rang de carottes. Si vous mettez ça juste sur le rang, même ça de large, il reste que ça absorbe un peu d'eau, ça garde le sol un peu plus chaud, et ça aide beaucoup pour les carottes spécifiquement. Les autres plantes, c'est pas grave. Donc, ça serait peut-être une façon de l'aider avec cette situation où on a beaucoup de pluie et qu'il fait pas très chaud. C'est pour l'aider. Encore, laitue, je n'ai pas trop crainte. La laitue va adorer ça. La tomate. C'était le bonheur pour planter, hein? Le sol n'est pas très, très chaud encore. Ou probablement pas. Il faut peut-être au moins couvrir la nuit. Ou peut-être la nuit et le même. Peut-être même le jour. Si ça ne monte pas au delà de 20 degrés ou pas beaucoup plus, ça va aider la plante. Mais la nuit, au moins, ça pourrait donner un peu de chaleur et aider la plante à passer à travers cette période-là. Parce que moi, personnellement, mes tomates ne sont pas plantées encore. Je trouve ça trop frais. Et je suis dans la ville de Québec aussi. Fait que moi, j'attends encore. Voilà.
Denise Leclerc, merci, vous êtes tellement intéressant. J'en apprends à chaque fois et que je vous lis ou vous écoute. Bravo pour votre travail.
Ah ben merci beaucoup, c'est gentil.
On a Marie-Chantal. Déplacer un plant de rhubarbe, quel est le meilleur moment?
Tôt au printemps. Ça peut être aussi l'automne, tant que vous savez où ce qu'il est vraiment. Mais oui, tôt au printemps, ce sera le meilleur moment. Quand vous voyez les premiers bourgeons à peine paraître, c'est un excellent moment. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que la plante est en train de faire de nouvelles racines et est prête à en faire. Donc c'est vraiment l'idéal. La plante se relance et là, vous allez le relancer dans un nouvel endroit, tout simplement. À l'automne aussi, c'est excellent. La plante est très rustique, donc il n'y a pas de danger de transplanter cette plante-là à l'automne. Si vous le transportez quand elle est en pleine croissance, et là, à cette date-ci, l'effet doit être dans le grosse ou presque grosse, c'est plus un choc. Je dis ça. Il reste que la rhubarbe est une plante solide. Donc, si vous avez une raison pressante, vraiment pressante, pour transplanter maintenant, faites-le. Mais moi, j'attendrai plutôt, soit l'automne ou au printemps prochain pour le faire.
L'Histoyen nous vient avec une autre question. Elle dit, j'ai semé des melons d'eau. Ils ont manqué de lumière et ils sont étiolés, 3 pouces de haut. En les mettant en terre, vont-ils s'en remettre ou si je dois recommencer?
Oh non, non, les plants vont se remettre. C'est peut-être des petits miracles des semis. Parce qu'habituellement, quand on fait nos propres semis, et n'importe quelqu'un qui a fait ses propres semis, on ne sait toujours qu'ils ne sont jamais aussi beaux que ce qu'on achète. Ils sont un peu étiolés, un peu pâles. Mais après une semaine et 2 semaines, c'est disparu. On ne voit plus de traces de porte-virus comme avant. Tant qu'on les transplante jeunes, ça récupère très bien. Donc non, je n'ai pas peur. D'après moi, vous aurez un bon succès. C'est pas avoir de chaleur, parce que ça va être ça la question cette année. Melando ne veut pas, c'est une plante qui aime le sol chaud, qui aime l'air chaude. Imaginez-vous, ça vient des déserts c'est pas exactement le même climat que Québec. Donc, la chaleur, c'est important pour ce légume-là. Fait que, bonne chance. Parce que c'est un peu limite, hein? Je veux pas. Il n'y a personne dans nos régions qui sème le melon d'eau avec une garantie d'avoir des beaux gros fruits tous les ans. C'est des essais qu'on fait. Voilà.
Marielle Larenarde, elle dit j'ai planté ici et là des petits pervenches, entre parenthèses, Vincia, dans mes plates-bandes. Elles s'étendent à travers de mes plantations dans les plates-bandes. J'aime bien voir leur floraison au printemps. Question. Est-ce correct de les laisser s'étendre un peu, c'est-à-dire un peu partout, ou si cela pourrait nuire à mes autres plantes avec les années?
Oh mon Dieu. La question est compliquée dans le sens que c'est oui et oui, dans le fond. Éventuellement, ça pourrait nuire aux petites plantes. Supposons que vous mettez cette plante-là, qui a une hauteur de peut-être quoi, 20 cm, avec à côté d'une plante qui est plus petite, ça peut l'étouffer. Oui, ça peut nuire à ces plantes-là. Mais si les plantes sont plus grosses, d'habitude, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, on peut l'utiliser comme couvre-sol vivant. Ça peut entourer des grosses plantes et quand même très bien pousser. Donc, ça, c'est la réponse en général. Mais il faut quand même penser que c'est une plante assez dense. Hein? Fait qu'on peut laisser s'étendre. Mais laisser s'étendre partout, mais m'en avez une limite. Vous les prenez pas partout. À vous de décider jusqu'où ça peut aller avec cette plante-là, qui est quand même permanente. Hein? Ça revient d'année en année, sans problème.
Anne Sommier, elle dit comment se débarrasser des lanternes chinoises dans les plates-bandes? Les racines sont creuses et courent partout.
Oh! Encore une plante que moi, personnellement, très honnêtement, j'en ai jamais planté. Pourquoi j'en ai jamais planté? Parce que j'ai vu enfin comment ça poussait. Je le voyais envahir partout. Je me suis dit, oh non, je ne planterai pas ça. À l'époque, je connaissais ma belle-mère. Hein? Elle avait ça chez elle. Fait que je pouvais en chercher, sécher, je n'avais pas besoin de la cultiver. Mais il reste qu'à mettre cette plante-là et est envahissante. Bon, on a parlé de la fougère aigle tantôt, mais c'est un peu la même chose. Il ne faut pas le laisser avoir de la lumière. Donc, soit que vous coupez complètement la lumière sur la grande surface, soit tuer tout ce qui pousse, incluant cette plante-là, ou vous coupez toutes les tiges qui poussent. Et chaque fois que vous voyez le feuillage, vous coupez de nouveau. C'est comme ça qu'on peut le tuer. Évidemment, j'aurais pu vous parler d'herbicides, mais je ne suis pas très herbicide ici. Moi, j'aime autant trouver une méthode plus naturelle que ça. Et cette plante-là n'est pas très sensible aux herbicides de toute façon.
On y va maintenant avec la question de Joanne Parent. Elle dit, il m'est impossible de me débarrasser de la prêle. Est-ce une plante énergivore dans un potager? La terre qui m'a été livrée en est pleine aujourd'hui. Elle dit qu'elle est en zone 4.
Oui. Moi aussi, j'ai ma prêle d'une livraison de terre. J'étais tellement déçu parce qu'évidemment, on achète la terre, on fait confiance au marchand. Et moi, je voyais bien ça arriver. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait d'autre chose que ça. Parce que je le voyais sortir avant même que je pose la terre. Quelle idée! J'ai continué de l'utiliser. Il aurait fallu que je condense cette terre-là, je la ramasse et que j'en commande d'autres. Mais je ne l'ai pas fait. En tout cas, ce n'est pas grave. Je m'en suis débarrassé. Mais vous avez au moins l'avantage que c'est frais. Alors, maintenant, possible de me débarrasser. Oh! OK, là, je comprends ces deux choses. C'est déjà un problème. Puis en plus, on vient de vous livrer la terre pleine. Moi, je me plaindrais tout de suite en marchant. Moi, je serais au téléphone. Qu'est-ce que c'est que vous avez fait là? Oh, je ne veux pas cette cochonnerie-là. Viens ramasser la terre. Je veux de la terre de qualité. Non, je n'accepte pas les cochonneries. En tout cas, c'est ce que je dis que j'aurais fait. On va voir, mais probablement j'aurais fait ça. C'est vraiment pas drôle. Pour là où c'est déjà là, on va parler de la même chose. Il faut vraiment, vraiment l'empêcher de pousser. Et couper la lumière, c'est une bonne façon. Tantôt, je ne voulais pas parler de l'herbicide, mais on a peut-être rendu un peu trop loin. Là, c'est une plante qui est réellement. Ça dépasse les bornes, des fois. Donc, si vous dites, OK, ça y est, j'ai tout fait, je ne suis plus capable d'endurer ça. Là, vous pouvez peut-être essayer d'appliquer un herbicide Mais vaporiser pas comme à peu près la seule chose que vous aurez sur le marché, ça serait le Roundup, le glyphosate, on appelle son vrai nom. Tout le monde a très peur de ça. C'est pas si dangereux qu'on le dit. Il reste quand même que l'utiliser, le risque, c'est de l'utiliser trop partout. Si vous peignez ça sur la plante, vous ne faites que peigner sur la plante, ça ne va pas très loin. Ça va juste être cette plante-là qui va en avoir. Et comme ça se décompose assez rapidement, il ne devra faire aucune suite. Donc, si vous êtes vraiment rendu au stade où c'est impossible d'aller plus loin, faites ça. Ou encore, ça dépend où est-ce que c'est. Vous pouvez dire, « Ah, oh, mais le prêtre, c'est donc bien beau, je l'aime. » Et voilà, vous laissez vivre pour cette grande beauté. C'est une autre. Changer d'attitude, des fois, ça fait une grosse différence quand on veut te caresser dans nos jardins.
Est-ce que j'avais posé la question de France Leblanc?
Il me semble que non.
Comment nettoyer ses feuilles de mon lierre en pot qui est à l'intérieur de la maison?
Non, je n'ai pas vu ça. Non, OK, voilà. Donc, c'est
alors,
ça la question.
Allons-y avec celle-là.
OK, d'accord. Nettoyer les feuilles de son lierre. Donc, écoutez, souvent, ce que je fais, si la plante va rester dans la maison et je viens une belle journée pluvieuse comme ça, non. Comme ça, le pluie va me nettoyer. Ça enlève la poussière, ça enlève la saleté. Surtout s'il y a une bonne grosse pluie, là, ça peut faire énormément de bien. Sinon, on peut laver à l'intérieur. Prenez de l'eau savonneuse avec du vrai savon. Mettez pas. Faites attention au détersif de vaisselle et compagnie. Ça contient plein de produits chimiques. Même, ils ont beau mettre des petits canetons sur l'étiquette. Ça ne veut pas dire que c'est très écologique. Hein? C'est vraiment pas le cas. Mais un vrai savon, on pourrait avoir comme un savon insecticide. Le savon insecticide est que du savon et pas d'autre chose. Donc, on sait que c'est biologique, ça. Donc, beaucoup de gens utilisent le savon noir, mais le savon noir, vous savez, il y a énormément de controverses avec ça en France, parce qu'on vend plein de choses sous ce nom-là, puis on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais en tout cas, moi, je refais savon avec insecticide. Mais en tout cas, utilisez ça pour nettoyer. Donc, avec un linge humide, avec un peu de savon, passez ça de l'autre côté des feuilles, sur les tiges, rincez pour la suite. Et comme ça, vous pouvez nettoyer dans la maison, dans l'évier, peut-être tout, dans le bain. Une autre chose, il faut mettre dans la douche aussi. Ça, je fais ça pour les grosses plantes. Je mets sur la douche, puis j'ouvre l'eau. La bonne façon d'enlever la poussière et la saleté.
Je pense qu'on va peut-être éviter une chicane entre voisins. Sylvie Bolduc écrit « Je cherche un arbuste de 8-9 pieds de haut qui reçoit 3 heures de soleil par jour. C'est pour faire un écran entre les voisins et moi. »
Oh, voilà. Écoutez, je vais vous faire quelque chose. Parce que moi, je suis... Ça me prend... Je n'ai pas un cerveau assez encyclopédique pour pouvoir automatiquement classer les plantes par hauteur et ces détails-là. J'ai déjà quelques plantes en tête. Mais je vous suggère une chose. Allez sur le site de Hydro-Québec. Choisissez son arbre. Et vous allez voir. Eux, ils présentent des sélections d'arbres pour le Québec où ils donnent les dimensions. Et évidemment, leur but, c'est d'encourager les gens à planter des arbres loin des lignes d'hydro. Mais peu importe leur but, le côté pratique, c'est qu'il y a quand même une encyclopédie sur l'Internet sur les arbres et les arbustes. Et dans votre cas, vous parlez d'un grand arbuste ou un petit arbre. Et vous pouvez voir qu'est-ce que c'est que ça donne. Vous allez voir le pont de la plante, la hauteur, d'autres détails, l'éclairage, parce que 3 heures de soleil par jour, c'est mi-ombre ou ombre. Donc, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut. Moi, je trouve ce site-là est très pratique quand on veut comparer et faire des achats d'arbres. Donc, choisir son arbre, Hydro-Québec, ça va vous aider. Il y a Michel qui est allé chercher.
Oh oui, non, excuse-moi, j'avais oublié mon micro. Je viens de mettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent avoir la réponse à cette question-là sans trop fouiller. Le lien est déjà sur le chat de l'émission d'aujourd'hui.
Voilà, Michel est tellement pratique. Hein. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire. Je n'ai pas l'expérience. Voilà.
C'est pour ça que j'avais d'ailleurs oublié d'ouvrir mon micro.
C'est ce que je me suis dit. Il doit tenter ça. Parfait.
Pauline Gauthier a dit, l'an passé, j'ai divisé une belle table d'iris blanc et fuchsia. Et cette année, j'ai, à ma grande surprise, des iris moins hauts et jaunes.
Oh! Moi, je me demande s'il n'avait pas enterré sur l'iris bicolore. S'il n'avait pas une iris jaune qui était cachée et vous avez comme libéré ces rhizomes. Ça se peut. Mais autrement, j'ai pas d'explication. Mutation, ça se peut aussi, mais c'est plutôt rare.
Pauline, c'est-à-dire Joanne Parent, comment mettre en valeur un magnolia près de la maison? Nous avons un grand terrain avec des grands arbres matures, mais un peu venteux.
Oh, de toute façon, c'est assez facile. Il faut penser que cette plante-là est intéressante à plusieurs niveaux, parce que vous avez une floraison spectaculaire au printemps et quand même une part parfaitement potable pour le reste de la saison. Non, il n'y aura pas de fleurs, mais il va avoir quand même une belle forme. Donc, à vous de le mettre en valeur en le plaçant à une distance. Là, évidemment, il y a plus de magnolias, les dimensions peuvent varier. Mais vous ne voulez pas que ce soit proche d'une structure. Vous ne voulez pas non plus que ce soit trop proche d'autres branches. Pensez aux racines des grands arbres. Vous voyez qu'il y a de la place. Donc, vraiment, de façon à ce que... Pensez à un endroit où ce serait super de l'avoir en vue au printemps, mais où l'été, il y a d'autres choses très colorées dans le secteur. Il va prendre la vedette. Parce qu'il va devenir juste vert le reste de la saison. C'est une façon de l'utiliser.
Elle ajoute qu'elle est en zone 4.
OK, parfait. Oui, mais là, en plus, faites attention, ce n'est pas tous les magnolias qui vont en zone 4. Et vous avez un choix assez limité, mais ça existe, les magnolias de zone 4.
Marie-Pierre Cloutier a dit, j'ai une infestation de calligraphes dans une plate-bande de cornouliers. Pensez-vous que je peux planter des hydrangées où il y a danger que ce soit mangé aussi?
Oh non, il n'y a aucun problème. Pensez à quelque chose. Presque toutes les maladies et les insectes qui peuvent nuire à nos plantes sont spécifiques à la plante en question et ses proches parents. Quand vous changez de genre, là, vous avez un cornouiller et vous changez pour un hydrangée. C'est comme il n'y a aucun rapprochement. Ça bouge vaguement. Je pourrais dire que c'était des arbustes, les deux, mais il n'y a aucun rapport. Ce n'est pas la même plante, même pas proche. Donc, il n'y a aucun risque que le calligraphe aille s'attaquer aux hydrangées. Donc, vous n'aurez pas de problème avec ça. Donc, voilà, ce serait ma solution à ça.
Jeannette Ouellette, elle dit, sans originalité, j'ai succombé pour une petite polkadot plant, entre parenthèses, hypoteste philostascacia. Excusez mon... J'ai probablement scrappé le nom, mais bon. Elle continue en disant, mais peine à trouver les conditions qui lui plaisent. Je l'ai placé sur un plateau humidifiant, une assiette remplie de pierres, de rivières et d'eau sur la table à un mètre de la fenêtre. Fenêtre est de la maison, pardon. Elle se desséchait, ratatinait très vite. Sur l'étagère au fond de la même pièce, lumineuse, mais à 4 mètres de la fenêtre, elle s'étiole et ne fait que 3 grandes tiges plutôt qu'un beau petit couvert dense. Des conseils?
Bon, c'est évident que vous avez un petit problème. Hein? D'ailleurs, vous pouvez avoir des renseignements. Je vous suggère d'aller sur jardinterreceur.com parce qu'il y a un très, très long article sur ça. Il y a un an peut-être. Donc, je vais parler de ça. Mais dans votre cas, vous avez un côté de la pièce où la plante semble bien, l'air est trop sec. Dans l'autre place, il n'y a pas assez d'humidité. Et l'autre pièce, vous n'avez pas assez de lumière. Parce que quand les feuilles assèchent, s'enroulent, s'assèchent, c'est l'humidité qui manque. Et dans la pièce où ça s'étiole, ça manque de lumière. Donc, il faut essayer de trouver un emplacement où vous avez un bon éclairage, pas besoin que ce soit super ensoleillé, mais quand même du soleil tous les jours, bien sûr, et une forte humidité aussi. Aussi, l'autre chose, une autre fois que vous l'achetez, cette fois-ci, c'est un peu tard. Quand vous achetez une plante comme ça, avec des feuilles très minces, et qui sont très fragiles, elle est sec, quand vous l'achetez, mettez-le dans un sac de plastique au début, sac transparent au début. Scellez ça, emmenez ça à la maison dans un sac. Ça va faire partie de votre acclimatation, quoi. Vous allez laisser ça dans le sac au début, mais vous allez tranquillement ouvrir le sac sur plusieurs jours et même semaines, de façon à ce que la plante soit exposée graduellement aux conditions chez vous. Ça pourrait aider beaucoup à l'acclimater. Maintenant, il y a une limite. Si c'est vraiment beaucoup, je dirais que le minimal pour cette plante-là, ce serait 50% peut-être. Et 50%, c'est vraiment à peine assez. Moi, j'aurais aimé mettre 60, mais c'est difficile de trouver 60. Mais si c'est de 40, là, ça n'y aurait pas du tout. C'est pas pour rien que la plante, le polka dot qu'on appelle, que la plante au... la plante au... En tout cas, je ne sais pas polka dot, mais un autre nom. Mais hypoestase. Et pas très durable, parce qu'elle ne vit pas longtemps dans la maison à cause de l'humidité, ou manque d'humidité. Donc, il faut vraiment l'acclimater, faire très attention, et augmenter de toute façon l'humidité dans votre maison. C'est bon pour toutes les plantes. Ça ne peut pas... Allez, un plat humidifiant, c'est légèrement efficace, tout près, mais d'après moi, votre maison est pas plus sèche que vous pensez. Il faudra augmenter l'humidité partout. Et toutes vos plantes vont vous remercier pour ça.
Question maintenant de Aiden Knight. Est-ce une bonne idée de rajouter un bon restant de mousse de sphagne à mon potager? Je ne veux pas gaspiller ce qui me reste.
Oui, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Le mélanger au sol, l'utiliser comme paillis. Oh, pas de problème. Ce n'est pas très, très riche, mais c'est quand même un produit aéré et ça va stimuler des bons microbes qui vont le décomposer. Donc oui, pas de problème. Moi, je dirais, allez, pas plus qu'un quart, peu importe la terre qui est là, de façon à ce que les plantes puissent quand même bien s'adapter à ça. Mais on peut l'utiliser. Ça serait de valeur de gaspiller ça. Ou on peut le mettre au compost aussi. Hein. Mettre quelque chose au compost, c'est pas jeter, hein, c'est le réutiliser. Il faut le souligner comme ça.
Thérèse Audet. Est-ce que je peux transplanter mes cerises de terre plus profondément au potager parce qu'elles ont poussé en orgueil par manque de lumière?
Très honnêtement, je n'ai jamais essayé. C'est dans une famille de plantes, par contre, qui font souvent des racines sur la tige. Moi, je dirais que cette année-ci, essayez ça sur un plant, sur deux peut-être, pour voir si ça fonctionne. Et vers la fin de l'été, creusez un peu pour voir si les racines se sont formées. Et là, vous pouvez même former. Donc, vous allez devenir un de mes aides personnelles. Voilà. Parce que je n'ai jamais essayé ça pour cette plante-là. Quand même que la tige ne soit pas solide. Et la plante est rarement solide. Hein. C'est une plante qui a souvent besoin d'une tuteur. Mais c'est pas lui pareil. Hein. C'est juste une question de... que ça reste à sa place et que ça ne vient pas s'écraser sur ses voisines. Donc, une tuteur, ce n'est pas la fin du monde non plus. Il faut toujours mettre ça.
Daniel Pagé, j'ai planté deux célastres Autumn Revolution sur une tonnelle au début de mon jardin. Est-ce que le système racinaire du célastre peut nuire à mes autres plants? Dois-je m'en débarrasser? Sinon, comment puis-je réduire sa taille? Merci de vos bons conseils.
Ça, c'est une question pour laquelle je ne sais pas la réponse. Je me dis, dans la nature, ça pousse très bien dans une forêt avec plein de racines d'arbres. Donc, c'est certain que c'est les arbres et les arbustes ne sont pas dérangés par ça. Je ne sais pas pour les petites plantes, par contre. Je n'ai jamais pu essayer cette plante-là. À l'époque où j'avais une place pour une grande grand-pente, il n'y avait pas Autumn Revolution que Daniel de Saint, mais d'autres n'avaient pas, qui est un célastre qui a des mâles et femelles ensemble, ce qui fait que vous avez pas besoin d'avoir deux plans différents. Donc, ça a été un grand avantage. Et j'ai jamais pu l'essayer. Mais ça me tentait. Hein? J'aime beaucoup cette plante-là. Quand je la vois sur le pergola, au jardin de Rennes, je dis, oh mon Dieu, c'est long, bien beau. Mais pour les racines, je pense que c'est pas si pire, puisque dans la forêt, ça vit dans des forêts denses, 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 avec plein de racines d'arbres. Voilà.
Anne Sommier, merci de vos précieux conseils. Les lanternes chinoises semblent être une plante de mère et de belle-mère. J'ai finalement convaincu la mienne qu'il faut s'en débarrasser, sinon, I give on the plate band.
Ouais.
Merci encore.
Oui, mais c'est que autrefois, on faisait beaucoup plus de bouquets qu'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on ne fait pas de bouquets, mais autrefois, c'était beaucoup, c'était important. Là, je parle des années 30, 40. On faisait des bouquets. Alors, aujourd'hui, on achète des bouquets. À l'époque, on les faisait. C'est que beaucoup de gens avaient une jardin de fleurs coupées. Et cette plante-là, ben, écoutez, lanterne chinoise, c'est pas une belle fleur. La fleur même est ordinaire. C'est des clochettes oranges qui sèchent, qu'on conserve, sont intéressantes. C'est une plante pour des bouquets. Donc, c'est le genre de plante que je me suis dit, si jamais j'avais besoin beaucoup de cette plante-là, je donnerais ça à un voisin, mais pas mon voisin à côté, peut-être le quatrième voisin. Et comme ça, je pourrais en chercher quand je veux. Et ce serait à lui de s'occuper, de le contrôler. C'est méchant, des choses qu'on pense des fois. Hein? J'aurais jamais fait ça. C'est tellement, tellement difficile à contrôler. Mais justement, ce groupe d'âge-là, un peu plus vieux que moi, c'était fort sur les fleurs coupées, et les arrangements floraux. Donc, cette plante-là, c'est courant de le trouver là. Voilà.
Hélène Gagnon, je suis sur un coin de rue. Est-ce que je peux faire une requête de hosta qui résisterait à la sécheresse?
Oh! Hosta et sécheresse, ça ne va pas bien ensemble. Si c'est sec, et là, je présume, dans ce cas-là, votre sol doit être sablonneux ou quelque chose comme ça. Parce que le coin de rue en soi, c'est pas nécessairement sec. Mais il doit y avoir d'autres choses. Moi, je ne mettrais pas un hosta dans un endroit où c'est souvent sec. C'est pas la place pour cette plante-là. Cherchez une place où c'est plutôt humide la plupart du temps.
Lise Doyon a dit, j'ai acheté des lavandes en semis. Ils ont 3 pouces de haut. Pour les planter, dois-je ajouter du sable ou de la gravelle? Je veux les planter où mon gazon a de la difficulté car il brûle au soleil près de la bordure de ciment de mon voisin nouvellement posé. La terre est pauvre et sablonneuse. Dois-je faire une butée pour remonter un peu, pour remonter un peu son emplacement?
Oh, moi, je ferai un but certain. Je sais que c'est bien drainé, mais moi, je regarde, évidemment, ce que les gens font chez eux, c'est une chose, mais je regarde comment ce que les professionnels font pour cultiver cette plante-là. Et vous allez voir, il n'y a pas personne qui fait leur école, la culture professionnelle de la lavande qui ne cultive pas sur le but. C'est signe de quelque chose, ça. Donc, moi, je mettrai ça sur le but, absolument. Donc, peut-être que ce n'est pas exactement ce que vous avez prévu, mais moi, j'aurais tendance à faire ça. Et rajouter du sable ou de la gravelle, pourquoi faire ça? Ça va juste nuire plus tard à d'autres choses. Moi, je pense que si vous faites une butte, avec un terre plus aéré, ça suffirait. Puis, ne mélangez pas ça avec le reste. C'est pas grave sous le sous-sol le plus humide. C'est qu'on veut que la plante puisse se drainer rapidement. Et ça marcherait avec une butte, tout simplement.
Denise Bourassa, mon hibiscus vivace n'a toujours pas fait de repousse. Je suis à Québec. Est-ce normal?
Oh, absolument. Cette plante-là est désespérément lente à sortir au printemps. Elle attend vraiment qu'il y ait de la chaleur. Puis, est-ce que vous avez vu la chaleur? Pas beaucoup, hein? Non, elle va venir bientôt. Je ne dis pas que c'est en vie, ça se peut que ça ait été tué. Mais il faut toujours marquer cette plante-là. Toujours, toujours. Parce qu'on devient découragé autrement. Pour se rappeler où est-ce que c'est. Parce que je me connais, si je suis jardinier et je regarde la place, je dis, bon, il y a une trouve juste là. Mais c'est pas une trouve, c'est une plante. Fait qu'il faut attendre. Cette plante-là est très, très lente au printemps. Puis on ne voit pas vraiment de signe de croissance. Et ça devrait bientôt. Ça va venir, je suis certain.
Marie-Josée Landry a deux questions. On va y aller par, on va commencer par la première. Elle dit j'ai des framboisiers pardon, à planter et on m'a dit que les framboisiers préféraient les sols acides. Est-ce vrai?
Non. C'est pas que c'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est pas important. Ça tolère les sols acides. Nécessaire, non. Non. Framboisier, il faut penser quelque chose. Voyez comment ça pousse en nature. Le framboisier, elle a beau aimer les fruits. C'est une mauvaise herbe, hein? Elle court partout, elle cause des dégâts à tout le monde. C'est un monstre de plante. Et les monstres de plante poussent n'importe où. Hein? C'est une de leurs caractéristiques. Donc moi, je m'inquiéterais pas du tout la qualité du sol pour les, frais, les framboisiers. Je ferais surtout les planter ailleurs, pas près des autres plantes que je vais conserver.
Oui. La deuxième question. Dois-je ajouter de la mousse de sphagne à la plantation car mon sol se draine rapidement?
OK. La mousse de sphagne, ça vous coûterait cher, je pense. Peut-être un compost ou au moins que vous voulez dire peat moss, c'est mousse en tout cas, ou tourbe que les gens disent souvent. Ça serait moins cher, je pense, que la mousse de sphagne qui est plus coûteuse. Ça peut aider, bien sûr, à retenir plus d'humidité, ça pourrait aider. Le compost serait encore mieux. Et ce n'est pas nécessairement pour le fraisier comme tel. Pourquoi je dis fraisier? Framboisier comme tel, mais pour les autres plantations peut-être dans le secteur. Parce que c'est une plante assez tough. Vous pouvez mettre dans n'importe quel sol et rajouter un peu de compost. Ça marcherait très, très bien.
Diane Cossette, elle dit comment éloigner les écureuils qui déterre mes bulbes et joue dans mes plates-bandes.
Si j'avais une solution parfaite à ça, wow! Mais non, c'est difficile de contrôler les animaux. Ils sont plus intelligents qu'on pense. Et c'est pas comme un insecte qui a tendance à répéter les mêmes choses et à passer d'autres choses. Donc, on finit par découvrir le truc qu'on peut les avoir. Mais un écureuil, si vous faites quelque chose, il va réagir, il va trouver un autre chemin. Et là, vous allez faire quelque chose, il va réagir, il va trouver une autre façon. Donc, parmi les choses, il y a tant de choses qu'on peut faire. Si vous parlez de bulbes, voici quelques possibilités. L'une des possibilités, ce serait planter plus tôt, plus profondément que d'habitude. Beaucoup de bulbes, on va les planter dans les 10 premiers centimètres de sol parce que ça va, ça convient, c'est assez. Mais c'est une zone dans laquelle l'écureuil creuse. Si vous le plantez en profondeur, le bulbe va quand même passer, et c'est plus de travail, je ne dis pas le contraire, mais passer 15 cm, il ne va pas plus loin que ça. Il commence à creuser et la terre retombe dessus. Donc, il va abandonner. Donc, plus profondément, c'est peut-être une possibilité. Vous pouvez toujours couvrir votre plantation aussi d'un produit qu'il n'aime pas, comme des cheveux humains, des poils d'animaux, peut-être que vous avez un animal, vous tondez, ça pourrait aller là. C'est des choses qu'on peut faire. Aussi, on peut mettre simplement de la farine de sang, qui est en même temps un engrais, mais qui sent le sang, pour l'écureuil du moins, il va être découragé. On peut mettre aussi fumée de poule aussi sur le sol. N'oubliez pas que si vous faites ça, parce que c'est chassé par l'odorant, il faut changer votre produit de temps en autre. Parce qu'encore une fois, il devient habitué. Le farine de sang qui lui faisait peur au début, 3 semaines plus tard, il n'a plus peur. Donc, il faut faire d'autres choses. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on peut faire. Autre possibilité, vous achetez un arroseur directionnel muni d'un énergique, si on veut. Il passe de là, puis il se fait arroser. Je vous jure, il ne reviendra pas souvent si vous l'arrosez quand il passe. Donc, c'est différentes choses qu'on peut faire. Allez sur mon site web, johnnyperrosse.com. J'ai toute une page avec chaque page. Ça peut être 20 pages de trucs pour contrôler les écureuils. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut s'amuser en chassant les écureuils. C'est tout à fait ça.
Le truc que tu viens de donner pour chasser les écureuils, je vois l'image du d'eau qui sort du sol puis l'écureuil qui saute à côté. L'image me fait bien rire.
Moi, j'ai déjà vu une incroyable réaction. Oh là là, c'est drôle, c'est juste de l'eau, hein? Mais ça fait peur à l'animal.
On va y aller. L'émission chef, il reste 2-3 minutes. On va y aller avec la question de Manon Frève. Avez-vous une suggestion de petits arbustes avec fleurs qui tolèrent la sécheresse, plein soleil et pas plus de 3 pieds?
OK, il y a plusieurs sans doute. Mais moi, j'aurais peut-être, je pense, à la potentille, entre autres, que ça serait dans cette catégorie-là. Il y en a qui sont un peu plus hauts que ça, mais beaucoup qui aboutissent dans la zone de à peu près ça, là, 60, 75, 90 cm environ. Donc, ça pourrait être intéressant. Ou Spirit Japon. Il y en a des plus hautes et dans les plus petites, il existe des variétés sans problème qui vont rester dans cette zone-là. Et je pense qu'on peut trouver aussi des épines vinettes à peu près dans cette zone de dimension-là aussi. Regardez voir ce qui est indiqué sur l'étiquette pour avoir des dimensions à maturité de l'arbuste.
Marie Côté, est-ce qu'on plante nos tomates?
Moi, je trouve que c'est un peu... Ça dépend où. À Montréal, oui. Sud-ouest de Québec, oui. Ailleurs, c'est un peu tôt où on va planter puis couvrir. Parce que les nuits, encore, on est presque rendu, mais encore un tout petit peu trop frais la nuit. Ailleurs, oui.
Jeanne Ouellette, elle dit, vous cherchiez plantes aux éphélides pour ma pas de cadeau plante.
Ben oui, plantes aux éphélides. Je ne sais pas pourquoi le nom ne vient pas à l'esprit. Mais vous savez, c'est peut-être en vieillissant, je n'ai plus de cerveau, je ne sais pas. Mais merci beaucoup de donner donc. Plantes aux éphélides, c'est justement l'hypoestèse ou le polka dot plant. Voilà, merci.
Dernière question rapidement. Madge Rousseau. J'ai un gothéry planté depuis 2 ans près de ma haie. Il n'a pas poussé beaucoup depuis et les feuilles sont jaunies un peu et aucune baie. J'aimerais les mettre à l'intérieur, sinon... Quel environnement extérieur serait idéal?
Ce serait un endroit légèrement humide, pas mal ombragé et sol acide. Ce serait l'idéal pour cette plante-là.
Malheureusement, on n'aura pas le temps pour une prochaine question.
On va dire comme ça aux gens qui ont écrit, j'espère que vous allez revenir autre semaine. D'abord, un grand merci à Michel Bédard que vous entendez. Et Marlène Bordelot, qui travaille derrière la scène, paraît-il que le pauvre souffre d'une grippe, puis elle risque à grimper du lit juste pour ça. Oh, Marlène, on apprécie beaucoup. Et moi-même, je suis ici, Larry Hodgson, de retour la semaine prochaine, toujours à 10h, et bon jardinage entre-temps. Et la semaine prochaine, d'après moi, on va tous être en train de planter nos tomates.
Donc, voilà. Et Larry, en terminant, le soleil sort. À Québec, actuellement, on a une éclaircie.
Ah, voilà.
Ici, à Québec, dans mon coin, en basse-ville de Québec, on a une éclaircie actuellement. Wow!
On n'a pas l'habitude. OK, bye.
Bye-bye, bonne semaine.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
J'ai vu plus prendre.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Mercredi 17h à CKIA 88.3 et CKIAFM.org.
Maman, regarde la bombe!
Ouvrez l'œil lors des baignades. Pas d'écran, pas d'alcool, pas de distraction. Ensemble, évitons les noyades. Un message du Centre de traumatologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants et de Andy Collins pour les enfants.
Merde! L'émission vient de finir!
Vous avez manqué votre émission préférée?
Il y avait un super beau programme aujourd'hui.
Cessez de vous taper la tête sur les murs. Toutes les émissions de CKIA FM sont disponibles en balado-diffusion.
Qu'est-ce que je fais?
Allez sur le site internet ckiafm.org et écoutez en ligne ou téléchargez votre émission préférée en MP3.
Ah, je me sens tellement mieux, là!
Salut, moi c'est Karim. J'ai fait des études en musique et je réponds présent.
Je m'appelle Marie, j'ai complété un bac en mathématiques et je réponds présente.
Je m'appelle Maxime, moi j'ai étudié en littérature anglaise et je réponds présent.
Enseigner à nos jeunes... Bâtissez l'avenir. Soumettez dès maintenant votre candidature pour la prochaine rentrée scolaire à québec.ca/répondez-présent.
Je suis Françoise, je suis une enseignante retraitée et je réponds présente.
Un message du gouvernement du Québec.
Culture, c'est votre grand rendez-vous culturel et épicurien en compagnie de Julie Réon. Musique, entrevue avec des grands noms des artistes de la relève, arts visuels, arts de la scène, choix de sortie, grands événements, bouffe et plus encore. Culture, c'est à ne pas manquer tous les jeudis, 11h, sur CKIA 88.3.